La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je suis le pasteur David Tripet de l'église La Maison à Toulouse. C'est une joie pour moi de vous apporter la parole de ce jour. Aujourd'hui, je vous propose de méditer autour d'une parabole que Jésus nous donne dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Un grand-père et sa fille sont assis sur un banc dans un jardin public et la petite fille demande « Dis, papy, est-ce que Dieu t'a créé ?»«
Oui, ma petite fille, on peut dire ça. C'est Dieu qui m'a créé, » répond le papy.
Quelques minutes passent, puis la petite fille revient à la charge. « Papy, papy, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé, moi aussi ?»«
Mais oui, c'est lui aussi. »
Alors la petite fille observe bien son papy, de haut en bas pendant un long moment. Puis, elle sort un petit miroir de sa dinette et observe soigneusement son reflet pendant un long moment. Le grand-père qui la regarde faire ne comprend pas bien les idées qui passent par la tête de sa petite fille. Mais soudain, elle lui dit, « Tu sais, papy, j'ai l'impression que Dieu fait du bien meilleur boulot ces temps-ci. » Cette histoire nous raconte que cette petite fille juge son grand-père en fonction de son apparence. Il est ridé, il est plus vieux, peut-être qu'elle le trouve moins beau qu'elle. Combien sommes-nous pas à juger les gens trop hâtivement? Combien ne sommes-nous pas à regarder l'autre parce qu'il nous dérange, parce qu'il n'est pas comme on l'imagine, comme on aimerait selon nos propres standards? Sommes-nous pas des fois, même si on se dit chrétien, trop vite à juger et à voir ce qui nous dérange chez l'autre et à condamner l'autre ou à le rabaisser ou à dire « T'as vu celui-là comme il est habillé ? T'as vu celui-ci comme il se tient ? T'as vu celui-ci ? Qu'est-ce qu'il se dit chrétien ? Mais c'est pas possible. Regarde son style de vie, regarde comment il est habillé. Et puis regarde, mais c'est son idéologie. Peut-être même qu'on va condamner quelqu'un pour ses pensées. Peut-être qu'on va le condamner pour sa sexualité, pour sa dépendance à des jeux d'argent. Peut-être qu'on va le condamner aussi parce qu'il a des idées politiques qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, ou que sais-je. En fait, on est très vite à voir les défauts chez l'autre avant de voir les nôtres nous-mêmes. On est très vite à condamner au lieu de faire grâce. Et c'est là tout le message de Jésus que Jésus nous laisse en étant ce Dieu qui se fait pleinement homme. C'est-à-dire, Jésus, il est pleinement Dieu. Il est Dieu lui-même, pleinement. Il est non seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. C'est tout le mystère de la Trinité qu'on a toujours de la peine à vraiment comprendre. Et il est pleinement Dieu et il vient sur terre en étant à la fois pleinement Dieu et à la fois pleinement homme. Ce n'est pas moitié-moitié, c'est le tout ensemble. Comme si en Jésus lui-même est réconcilié toute la dimension de la divinité, mais aussi de l'humanité rachetée, purifiée, restaurée en Jésus. D'ailleurs, Jésus, par sa venue sur terre, et l'accomplissement de sa venue sur terre par la croix et sa résurrection, ouvre comme une lignée nouvelle, comme un nouveau chemin qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous apprend à être transformé par son esprit et à marcher en tant que fils et fille de Dieu renouvelé dans une intimité, dans une relation profonde avec le Dieu vivant, par son esprit qui se déverse en nous. Et c'est ainsi que c'est plus facile de ne pas juger, de ne pas condamner, mais d'aimer. de ne pas marcher avec des principes religieux, avec des principes peut-être bibliques, avec des principes qu'on nous a enseignés, mais de marcher d'abord avec le cœur de Dieu qui nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu selon le cœur de Dieu, selon la grâce, selon son amour, en étant conduit par lui plus que par des principes. Et donc, l'histoire que l'on va voir se passe juste après que Jésus descende du mont des Oliviers et il va se rendre vers le temple à Jérusalem. Et dans le temple à Jérusalem, il y a une première cour extérieure qu'on appelle le parvis. Cette première cour, le parvis, c'est le lieu d'accueil un peu pour tout le peuple, pour tout le monde. C'est le lieu où on offre un sacrifice des animaux pour être pardonné de nos péchés. C'est le lieu où, une fois même, Jésus s'est mis en colère parce qu'il y avait tous des vendeurs dans le temple, des gens qui vendaient, qui étaient dans le lieu de commerce parce qu'ils vendaient aussi plein d'animaux, plein de choses pour faire des sacrifices, mais d'une manière honteuse. En fait, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où ça sent vraiment pas bon parce qu'on offre constamment des animaux en sacrifice qui sont brûlés entiers. Donc, quand on brûle un animal entier, ça sent pas bon. Et il y a du sang partout parce que quand on offrait des animaux en sacrifice, il y avait du sang. Ce n'est pas un lieu vraiment très beau, très pur, comme des fois on peut s'imaginer le parvis du temple. Non, c'est le lieu où on vient déposer notre péché devant Dieu pour demander pardon pour nos péchés. Parce qu'il y a l'autel de sacrifice qui est là pour offrir ces animaux en sacrifice. Ce lieu était racheté par la croix, parce qu'aujourd'hui, l'autel de sacrifice, c'est la croix. C'est là que on vient offrir nos vies devant Dieu, parce que Jésus a payé le prix pour nous. Il est devenu le sacrifice vivant. Il est devenu l'agneau immolé, il nous a dit, c'est-à-dire le sacrifice parfait. L'agneau, c'est l'animal parfait qui offre un sacrifice, qui rappelle aussi toute la fuite d'Égypte, mais c'est une autre histoire. Mais la croix est le parvis, est le lieu du sacrifice parfait. Où Jésus a payé le prix pour nous. Mais ça, ce sera plus tard. Revenons à notre histoire. Donc Jésus est là dans le parvis, dans ce lieu-là. Et puis, voilà que vient vers lui des hommes qui vont comme le confronter un peu sur son enseignement, parce qu'il vient de prêcher au temple, et puis il a même dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, il n'aura plus jamais soif. Cela juste à la fête, à la fin d'une grande fête qui s'appelle la fête des cabanes. Et à la fin de cette grande fête-là, Jésus dit, si vous avez soif, venez à moi et vous n'aurez plus jamais soif. Donc il y a vraiment Jésus vient rappeler qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même et qu'il donne la vie éternelle. Donc, voilà qu'il s'approche du temple, qu'il est au parvis. Et il nous est dit dans Jean 8 que des spécialistes de la loi et des pharisiens amènent une femme adultère, en train, qui a été surprise en train de commettre l'adultère. C'est-à-dire que cette femme, elle était vraiment surprise dans sa relation, dans son débat sexuel. Et il la place là au milieu de la foule. Et il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre en piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa. Et Jésus se met à écrire avec le doigt sur le sol. En fait, on ne sait pas ce qu'il va écrire. Mais il écrit sur le sol. Et comme il continue, et comme les pharisiens, les spécialistes de la loi continuent à l'interroger et à parler à Jésus reste à même le sol, à genoux, à la hauteur de cette femme qui était persécutée, on va dire presque, qui était prête à être lapidée. Et Jésus, là, se redresse. Elle leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis elle se baissa de nouveau et il se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se dressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais, ne pêche plus. Va. Et désormais, ne pêche plus. Quelle histoire magnifique qui nous est racontée là. Un texte qui est tellement fondamental, important dans le message de Christ, de la grâce et de l'amour de Dieu. Un texte qui est central. Alors que beaucoup d'exégètes ont commenté ce texte avec beaucoup de, des fois, d'incompréhension. Est-ce que cette histoire était vraiment fondamentale? Parce que dans certains textes ancestraux retenus par les pères de l'Église, il ne s'y retrouve pas. Dans d'autres, il est à la fin de l'évangile de Luc ou de Jean, ça dépend. Donc, il y a eu des doutes sur la véracité de ce texte qui rapidement a été essuyé, entre autres par Eusèbe et d'autres. Mais en tout cas, cette histoire nous interpelle énormément sur l'application de la loi et ce qu'en dit Dieu. La peine de mort était prononcée contre l'adultère selon les Lévitiques, Lévitique 20, 10. Et Deutéronome 22, 22. Mais la lapidation, elle était infligée selon la lettre de la loi que à la fiancée infidèle. Donc là, il y a quelque chose qui nous interpelle. Certains vont dire, ah, c'était peut-être une fiancée infidèle. En fait, on ne sait pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas sur quoi Jésus va s'appuyer. Jésus, lui, s'appuie sur la notion du péché. Jésus vient à genoux, à la hauteur de cette femme, à la hauteur de celui qui est péché. Il ne reste pas debout à la hauteur de ceux qui accusent. Non, il vient rejoindre celui qui est condamné, ou celle qui est condamnée dans cette histoire. Jésus se met à sa hauteur et il écrit sur le sol. Il y a eu plein de choses qui ont été dites sur ce qui a pu être écrit au sol. On ne sait pas vraiment. Mais ce n'est pas ça le plus important. Et Jésus dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ici, Jésus fait aussi référence à son enseignement au sujet de l'adultère qu'on retrouve par exemple dans Matthieu 5 au verset 28. Quand Jésus dit, Vous avez appris qu'il était dit, Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère avec elle dans son cœur. Saint Augustin dira, Jésus aussi condamne, mais il condamne le péché et non la pécheresse. C'est exactement cela. Eux, les accusateurs cherchent à piéger Jésus pour que lui aussi condamne. Mais Jésus remet les choses à son ordre, à sa place. Il condamne le péché et non la pécheresse. Et quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, il ne leur rappelle pas forcément tous leurs péchés, mais il leur dit simplement, quelque part, est-ce que vous n'avez jamais été tenté? Est-ce que vous n'avez pas déjà commis l'adultère dans votre cœur? Première chose. Parce que déjà cela, ça vous sépare de Dieu. Alors certes, la pratique du péché ouvre une porte presque Oui, une porte spirituelle. Les pratiques sexuelles commises hors mariage ouvrent les portes, elles nous séparent de Dieu. C'est une réalité. Mais ce n'est pas en accusant et en condamnant que ça va régler les choses. Non, c'est en revenant à la croix. Et donc Jésus s'abaisse et revient à la hauteur et dit, moi, ce que je condamne, c'est le péché et pas la pécheresse. Autrement dit, je condamne l'adultère, le principe de l'adultère, ce que représente l'adultère, mais pas celle qui a succombé. D'ailleurs, où est l'homme qui était pris aussi avec elle? Si elle commet l'adultère, elle l'a pas commis toute seule. Et d'autres diront même, peut-être qu'elle a commis d'autres adultères et qu'elle était déjà surveillée, on va dire, par ses responsables religieux. En tout cas, il a été assez facile de condamner une femme et pas condamner l'homme, un peu trop malheureusement. À l'époque de Jésus, la place de la femme n'était pas vraiment reconnue. Mais Jésus, lui, va relever la femme en s'abaissant vers elle. Cette femme qui est vraiment, qui a tout pour être accusée, condamnée à mort. Jésus se baisse, va à sa rencontre et relève la femme, lui redonne sa dignité. Et lui-même, plus tard, va payer le prix jusqu'à la mort. Lui va être lapidé, lui va mourir pour nous. Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Donc quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, alors lui, il aurait pu le condamner. Lui, il aurait pu jeter la première pierre. Mais la Bible nous dit que, au lieu de jeter des pierres, Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice se construit. C'est-à-dire qu'il est la fondation de nos vies. Jésus n'est pas une pierre pour détruire, mais une pierre pour construire. Alors ma question, c'est, veux-tu construire ta vie sur Jésus? Veux-tu être de ceux qui condamnent ou de ceux qui font grâce? Veux-tu être de ceux qui jugent la différence et qui voient la paille qui est dans l'œil de leur voisin au lieu de voir la poutre qui est dans le sien, comme il dit dans la suite, l'évangile de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 5. Veux-tu être enfant de Dieu qui fait grâce? Et puis, Jésus va vers cette femme et ne lui donne pas comme condition de ne plus pécher. Il ne lui dit pas, tu vas avoir une belle vie si tu ne pèches plus, c'est la condition pour que je te pardonne si tu ne pèches plus. Non, Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. C'est le chemin que je te présente, le chemin sans péché. Le péché nous sépare de Dieu. Jésus nous ramène à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'explique dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 5, 21, quand il dit, celui qui n'a point connu le péché, autrement dit Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. En Jésus, par la croix, nous sommes transformés, rachetés, libérés de nouvelles créatures. Ça, c'est la puissance de la croix. Et Jésus lui-même est devenu péché et le péché est mort à la croix en Jésus. Quand il dit à cette femme, va et ne pêche plus, il lui montre le chemin de la grâce et de la rédemption, qui est pour nous encore plus facile depuis sa mort et sa résurrection. Cette histoire nous apprend encore une dernière chose, c'est que nous devons apprendre à pardonner même quand l'autre ne demande pas pardon. Cette femme ne vient pas demander pardon. Cette femme ne demande pas pardon à Jésus ni à ceux qui l'accusent. Pourtant, Jésus lui dit, où sont ceux qui t'accusent? Il n'y a personne. Alors va et ne pêche plus. Car oui, Jésus en fait montre par là qu'on est tous pécheurs et qu'on doit apprendre à se séparer du péché. Et le chemin de la grâce est le meilleur chemin pour ne plus pécher. Parce que ça te renvoie toi-même à ta propre responsabilité. Et quand tu pardonnes à quelqu'un, même s'il t'a pas demandé pardon, tu le renvoies à sa propre responsabilité. Et c'est à lui de travailler sur lui et c'est à lui de te demander pardon. Mais toi, Tu te libères de toute accusation que tu as mis sur lui. Tu n'es plus accusateur et tu n'es plus lié à lui par la souffrance. Et il n'y a plus d'attente sur l'autre. Cette attente que l'autre demande pardon, se repente de son péché, reconnaisse sa faute, te laisse dans ton état de victime, te laisse dans ton lien avec en fait celui qui t'a blessé. Mais le pardon libère, nous dit la parole de Dieu. Pardonner nous libère nous-mêmes en premier lieu et nous lie à Christ qui a vaincu le péché à la croix et fait de nous des fils et des filles de Dieu qui marchons dans la liberté et dans la justice de Dieu. D'ailleurs, ce texte nous rappelle que la transformation par le Saint-Esprit nous amène à manifester le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, qu'on le retrouve dans Galates 5 au verset 22. Je prie pour vous, afin que Christ vous montre comment pardonner et aimer comme il pardonne et il aime. Que Christ vous donne et nous donne la capacité de s'abaisser, de se mettre à même le sol, à la hauteur de celui qui est condamnable, de celui qui est dans un style de vie, dans une attitude de vie que l'on aurait tendance à condamner. Que Christ nous apprenne à aimer et à les relever. Que Christ nous donne la même attitude qu'une mère Teresa ou que d'autres personnes tellement saintes qui ont marqué notre temps à cause de leur amour et de leur non-jugement. Soyons une source de bénédiction et marchons dans l'amour de Dieu tous les jours de notre vie. Amen.
Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu. Ma foi est sans toi.